إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد طيب Donc on se retrouve une fois de plus aujourd'hui pour un nouveau cours sur notre matière, le comportement. Sur notre matière très 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 importante, une des matières principales à l'Institut, le comportement. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver à l'Institut, on leur souhaite la bienvenue. Sachant que c'est une nouvelle classe ici à l'Institut. C'est une nouvelle classe qu'on a ouverte il n'y a pas longtemps. Donc, pour ceux qui veulent rattraper les travaux, les cours que nous avons faits précédemment, tout est à disposition, que ce soit sur le site ou que ce soit dans vos groupes respectifs. Vous avez la possibilité de remonter les groupes. Telegram, hein. On ne fait plus groupe WhatsApp, c'est groupe Telegram. Et vous avez la possibilité de retracer voilà, les événements de l'Institut, etc., les cours. En principe, même les cours, ils sont tous repostés, en principe, chaque jour sur le groupe Telegram. Donc, si vous ne trouvez pas un cours sur le site, parce que le frère, il est très, très, très occupé, qui s'occupe du site, des fois, il ne met pas tout de suite les cours. Alors, ou vous les trouvez sur votre groupe Telegram, ou bien, il n'y a aucun souci, vous les demandez à votre admin, l'admin de votre groupe. D'ailleurs, quel que soit votre besoin, vous le demandez à l'admin de votre groupe, que ce soit un PDF sur le cours, que ce soit des questions, si vous avez des questions également. Naam. Concernant le fonctionnement de la Zoom, on a le chat qui est réservé aux étudiantes, comme elles sont plus nombreuses, hein. On a le chat qui est réservé exclusivement aux étudiantes. Si elles ont des questions, elles n'ont pas compris quelque chose ou autre, donc elles peuvent utiliser ou bien le chat ou bien passer par celle qui gère leur groupe. Et pour les frères, s'ils ont des questions ou quoi que ce soit, même pendant le cours, vous pouvez les poser sur votre groupe Telegram et moi, je vous réponds directement, Inch'Allah Ta'ala. Voilà comment fonctionne en général la Zoom. Naham. Également, concernant les cours de cette classe depuis le début, depuis le 15 septembre, tout se trouve sur le site ou bien sur votre chaîne Telegram. On vous recommande vivement, pour les nouveaux et même ceux qui sont moins nouveaux et qui n'ont pas encore tout écouté, on vous recommande vivement de tout écouter parce que c'est comme un puzzle. Si vous venez directement écouter les cours sans écouter ce qu'il y a eu avant, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème, ça vous empêche pas d'étudier, mais vous serez passé à côté d'un grand bien. Vous serez passé à côté de des choses qui sont très importantes. On a expliqué l'importance de chaque matière, on a fait des exhortations on a expliqué qu'avant de commencer les cours, il fallait que les cœurs soient ouverts. Il faut ouvrir les cœurs. Et ça se fait. Il y a une méthodologie, une pédagogie pour ça, et c'est ce qu'on a essayé de faire depuis le début. Et maintenant, depuis peu, c'est-à-dire depuis peu, on a commencé à entrer directement dans le livre. Alors le livre en question qu'on est en train d'étudier, il se nomme Makarimul Akhlaq, les caractères, les bons comportements de Sheikh Al-Uthaymin. De Sheikh Al-Uthaymin. Donc vous pouvez rattraper, il n'y a pas beaucoup de cours, mais vous pouvez les rattraper, Inch'Allah. Alors on va faire un tout petit récapitulatif de ce qu'on a vu précédemment. Précédemment, on a parlé dans un premier temps de la définition du comportement, de la définition du comportement. Alors, ce qu'on vous recommande selon vos possibilités, hein, selon vos possibilités, pour ceux qui peuvent, c'est de vous procurer ou bien le PDF, ou bien le livre qui se nomme Le livre de la science de Cheikh Al-Uthaymin, qui a été traduit en français. On vous recommande fortement d'avoir ce livre, et d'ailleurs on a fait partager, Mashallah, Barakallahu fikum, pour les admins qui vous ont partagé dans vos groupes le PDF, pour ceux qui ne peuvent pas se procurer le livre, au moins vous avez le PDF. Pourquoi? Parce que ce livre-là, non seulement il y est inclus dans ce livre-là, ce qu'on est en train d'étudier en ce moment, c'est-à-dire la noblesse du caractère et son importance. Makarimul Akhlaq. Il est inclus dans le livre de la science. Il commence à la page 315. Donc nous, on commence là par la fin 315. Et ensuite, on reviendra au début du livre. Et là, on fait le livre entier, Inch'Allah. Taïb. Mais on commence par un ouvrage qui a été édité individuellement, qui se nomme Les nobles caractères. Et au lieu d'acheter le livre tout seul, Les nobles caractères, dans le livre de la science, page 315 en français, parce qu'il existe également en arabe, hein, 315 en français, ben vous avez le livre qu'on est en train de faire, Naham. Et si vous avez le livre entier, c'est bien, parce que quand on aura fini ce petit passage sur le comportement. Quand on l'aura terminé, on va reprendre le livre de la science du tout début. Du tout début. Et d'ailleurs, dans la première classe, hein, dans l'autre classe, la classe des anciens, on y est encore. On y est encore. On est à peu près à la page 160. À peu près, on est arrivé jusqu'à la page 160. Naham. Donc voilà. Barakallahu fik, mashallah. Jazakallahu khair pour la photo. Donc l'admin vous a envoyé une photo du livre, hein, le livre de la science. Ou bien le PDF, ça peut. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'acheter le livre, vous avez le PDF. Hein. Vous avez le PDF, sinon. Voilà, vous pouvez vous procurer le livre. Je ne connais pas le prix. Hein. Concernant la maison d'édition, on en a parlé plusieurs fois, hein, avec les étudiants. On a dit qu'il y avait des livres. Il y avait beaucoup de livres où les seuls qui ont fait la traduction, c'est la maison d'édition Al-Bayyinah. Mais on a expliqué aux étudiants, on a dit, on prend la maison d'édition Al-Bayyinah, même s'il y a des choses à. Des commentaires ou des choses à émettre sur leur cas, on la prend, mais l'enseignant, votre enseignant, s'il y aura des erreurs ou quoi, il va les voir, Inch'Allah ta'ala, et à chaque fois, on corrige au fur et à mesure de l'enseignement. Donc, dans ce cas-là, c'est permis, il n'y a aucun souci, on peut prendre leur traduction du moment que moi, je révise leur traduction si jamais il y a des erreurs. Jusqu'ici, il n'y en a pas énormément. Et ce n'est pas des erreurs, Allahu a'lam, qu'on peut dire très très graves. Mais comme il y a des choses sur eux, l'édition Al-Bayyinah, on prend parce qu'il n'y a pas d'autre traduction. Donc, c'est une darura. Et pour vous, pour que vous ayez un support. Et dans un même temps, ne vous inquiétez pas, s'il y aura des erreurs, on vous le dira, Inch'Allah ta'ala. On est là pour ça. Naam. Concernant l'ouvrage Rahiq al-Makhtoum, concernant l'ouvrage Rahiq al-Makhtoum, c'est-à-dire le nectar cacheté. Alors, comme on avait dit dans le cours précédent, moi, il y a une vingtaine d'années, j'ai demandé aux grands élèves de Cheikh Mokbel Rahimahullah concernant ce livre. J'avais posé la question et il m'avait répondu, ce livre, il contient des choses da'if, des hadiths qui sont faibles. Mais on peut le lire pour le profit qu'il contient. Donc, Inch'Allah Ta'ala, si quelqu'un entend autre chose, il ne doit pas y prêter attention. Pourquoi? Parce qu'au moment où on a un enseignant, on écoute cet enseignant et on n'écoute pas les autres. Ça, c'est une première information. Ça, c'est une conduite à tenir. À partir du moment où on étudie avec quelqu'un, c'est ce quelqu'un qu'on doit écouter. Si par exemple un frère il te dit le contraire ou une sœur elle te dit le contraire, tu l'écoutes pas. Parce que déjà, quel est le statut de cette personne? Est-ce que c'est une étudiante? Est-ce que c'est avec qui elle a étudié, etc. J'ai entendu, ils ont dit, on m'a dit. Ça fonctionne pas comme ça. Tandis que nous, c'est de source sûre. Tandis que nous, quand on vous dit quelque chose, c'est de source sûre. Et on a une connexion avec des savants, avec des mashaïrs jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qui est dit à l'institut, faut le prendre pour. Sinon, vous pourrez pas étudier à l'institut dans le sens où, comment dirais-je, il faut s'en remettre complètement quand tu étudies dans un cadre. Faut t'en remettre complètement au cadre. Ta référence, c'est ton enseignant. À partir du moment où il te ramène les preuves, ta référence à toi, c'est ton enseignant. Parce que alors, comme vous allez apprendre à nous connaître avec le temps, nous, on dénigre jamais, on n'est jamais dans les reproches, on est là juste pour éduquer, s'éduquer et éduquer les autres en même temps, il n'y a rien de mal, il faut surtout pas être susceptible ou prendre mal, c'est tout ce qu'on dit, c'est un bien pour vous. Mais si on pourrait argumenter, on pourrait dire, nous, on a posé la question à des grands élèves de Cheikh Mokbel, et à notre connaissance, en France, il n'y a pas plus savant que eux. En France, il n'y a pas plus savant que eux. Donc, si une personne, elle vous rapporte. Après, s'il y a des divergences, ce qui reste possible, s'il y a des divergences, vous prenez ce que vous dit votre enseignant, c'est comme ça à la base. Dans les sciences religieuses, c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi on te dit tu vas étudier un madhhab dans le fiqh? Pourquoi on te dit la marche à suivre, la bonne méthodologie dans la religion quand tu es débutant, on va te dire tu étudies selon une seule école. Pourquoi? Parce que tu peux pas prendre l'avis de Malik, l'avis de l'imam Ahmed, l'imam Malik, en même temps l'avis de Shafi'i, en même temps l'avis d'Abu Hanifa. Tu peux pas, t'as pas le niveau encore. Donc, c'est pareil, quand tu étudies dans un institut, tu dois te fier à ton enseignant. C'est comme ça. Il y a des gens, oui, mais il y a des gens, ils m'ont dit que ça, il y a des gens, ils m'ont dit, il n'y a pas de gens, toi, tu étudies dans un institut, mon enseignant, il m'a dit ça, et mon enseignant, il est plus savant que vous. C'est comme ça. C'est pas pour se donner une image comme quoi on connaît mieux que les autres, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Mon enseignant, il est plus savant que vous. Il a des références. Et encore, on vous a même pas donné toutes nos références parce que voilà, on n'a pas envie de d'étaler tout ce qu'on fait. Mais voilà, le frère, la sœur qui va vous dire oui, mais moi j'ai entendu ça. Oui, mais c'est comme si vous lui dites oui, mais moi j'ai un enseignant et voilà, cet enseignant, il est plus savant que toi et ça s'arrête là. Naham. Taïb. C'était juste une information pour vous. On appelle ça c'est une marche à suivre. Sinon, vous n'allez plus vous en sortir. Hein. Vous n'allez plus vous en sortir à écouter un tel, une telle. Vous n'allez plus vous en sortir. C'est un conseil, c'est une recommandation. Vous avez un. Si vous préférez, c'est pas de la dictature, hein. C'est pas de la dictature, je vais vous donner une preuve. Allez, on va vous rapporter une preuve. Comme quoi, ce n'est pas de la dictature. À l'institut de Cheikh Mourbel, à l'époque, il y avait des étudiants qui venaient à l'institut. Et donc, eux, ils ne savaient pas, hein. C'était pas volontaire, c'était. Mais ça restait quand même une sorte de maladresse. Lorsqu'ils allaient dans les cours à l'Institut de Cheikh Mokbel, et qu'on leur disait dans les cours, Cheikh Mokbel, il a dit, Cheikh Mokbel, il a rendu ce hadith faible ou authentique. Et certains leur disaient, oui, mais Cheikh Ibn Baz, oui, mais Cheikh Al-Albani, il a dit, oui, mais Cheikh le Uthaymeen, il a dit. Et là-bas, les enseignants, ils avaient une habitude de dire, ici, on est à l'institut de Cheikh Mokbel. Tu prends ce que. Tu prends les avis et tu prends les positions de Cheikh Mokbel. Ici, c'est Cheikh Mokbel. Quand tu iras, tu arriveras à un certain niveau où tu partiras de l'institut, ou même quand tu arriveras à un bon niveau où tu es capable de distinguer, là, tu pourras dire, ouais, mais Cheikh Al-Uthaymeen, il a dit. Ou. Mais sinon, c'est pas une sagesse. C'est pas convenable, Naram, quand tu es dans un institut ou dans un endroit, de dire oui, mais Cheikh un tel ou un tel ou un tel, il a dit. Sauf si c'est pour que tu apprennes. Si c'est pour que tu apprennes. Par exemple, tu dis oui, mais alors pourquoi Cheikh Al-Albani il dit que le niqab c'est pas obligatoire pour la femme, par exemple. Par exemple, là, l'enseignant il va t'expliquer. Mais si tu dis ça pour contredire l'enseignant ou autre, là, ça sera pas bon. Là, ça sera pas bon. Parce qu'il y a tellement de divergences que tu peux pas, en réalité. Naam. Wallahu a'lam. Tayyib. Alors, on va commencer notre cours. Nous, on vous parle avec l'expérience, hein. On vous parle avec un recul, une expérience, comme le savent les élèves, hein. Surtout les anciens élèves. C'est pour vous. Si vous écoutez, ça va vous apporter beaucoup. C'est comme un grand frère, et comme le dit Cheikh Al-Uthaymeen, ton enseignant, c'est ton père dans la science. Nous, on est là pour vous diriger, pour vous donner des bons conseils, pour éviter les erreurs, parce que nous, on a une expérience de plus de 20 ans. Il y a beaucoup d'erreurs, on les connaît déjà. Donc on vous dit, fais attention, si tu vas à gauche, tu vas commettre telle erreur. Si tu vas là-bas, tu vas commettre telle erreur. Et c'est pour ça que c'est un des avantages d'avoir un enseignant avec une expérience, un vécu qui va vous dire, attention, Attention, il y a des gens à l'institut, ils ne nous ont pas écoutés, ils se sont retrouvés dans des... Wallah al-musta'an, hein. Ils se sont même fait sortir de l'institut. Parce que, pourquoi? Ils n'ont pas écouté. On les avait conseillés sur certaines choses. Ils n'ont pas écouté et ça leur a coûté assez cher. Masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aoustaz, je ne sais pas si cela concernait le cours de Tawhid en particulier, mais vous aviez prévu de faire une petite aparté sur la biographie du prophète au sein du cours. Barakallahu fik. Wa fik barakallah, hayakallah. Hayakallah. En fait, ça, c'est pour le cours de Tawhid. Inch'Allah ta'ala, c'est pour le cours de Tawhid. Mais merci de me le rappeler, Barakallahu fik, parce que c'est vrai, j'avais complètement oublié. On doit faire une petite biographie résumée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le cours de Tawhid. Wafik Barakallah, Inch'Allah ta'ala. Dans le cours de Tawhid, si j'oublie, il faudra me le rappeler, Barakallahu fik. Naham. Le prénom, je ne sais pas si je saurais bien le prononcer, hein. Neminho. Je ne sais pas si je saurais bien prononcer le pronom, le prénom, c'est pour ça que j'ai pas prononcé de prénom. Non. Taïb. Alors, dans notre cours de comportement, on avait vu dans un premier temps la définition du comportement. Donc hier, on a déjà fait un, ou dans le cours précédent, on a déjà fait un petit récapitulatif. Donc ceux qui veulent un récapitulatif de ce qu'on a fait depuis le début, il n'y a pas beaucoup, hein. Il n'y a pas beaucoup, vous arrivez au bon moment. Vous revenez au cours précédent. Naham. Ala kulli hal, en tout petit résumé, rapidement, on a vu la définition du comportement. On a vu les différentes formes d'acquisition du comportement. Parce qu'il y a plusieurs formes d'acquisition du comportement. On avait vu qu'on peut acquérir le comportement, ou bien c'est Allah ou Ta'ala qui te l'a donné, c'est inné, c'est naturel, tu as un bon comportement. Ou bien pour d'autres gens, il faudra aller le chercher, c'est-à-dire apprendre le bon comportement, puis le mettre en pratique. Ça, ce sont les deux formes d'acquisition. Ensuite, on a vu que le plus important et le premier comportement qu'il faut, auquel il faut donner une importance capitale, c'est le comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première chose. Donc on a vu dans les cours précédents que le comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y avait trois choses fondamentales pour concrétiser, ça revenait à trois choses pour concrétiser le bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait vu que ces trois choses, on avait vu que ces trois choses. La première chose, c'était recevoir les informations révélées par Allah en leur donnant son plein assentiment. Ça veut dire tout ce qui vient, Allah Ta'ala, il t'a informé dans le Coran et la Sunna. Tu t'y plies et tu les reçois avec véracité les informations venant d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, recevoir ces lois en étant disposé à les exécuter et les mettre en application. La troisième chose, recevoir ce qu'il a décrété, la prédestinée, avec un cœur patient et satisfait. Ensuite, ces trois choses-là, Cheikh Al-Othaymeen, il nous les a expliquées, il nous a fait un petit détail. Taïb, il nous a fait un petit détail. Donc revenez au cours précédent. Si vous voulez justement un petit détail concernant ces points, trois points principaux pour concrétiser le comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, comme le disait Cheikh Al-Othaymeen, il y a beaucoup de gens, ils pensent que lorsqu'on parle de bon comportement, de comportement, ça se résume uniquement au comportement avec les autres, les créatures. Mais ils oublient, ils passent à côté du fait qu'il y a le comportement très très important, le comportement avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, ensuite, Ensuite, on va commencer ici un nouveau point. On a parlé dans les cours précédents du comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va commencer à parler du comportement, du bon comportement avec les gens. On va commencer à parler maintenant du bon comportement avec les gens. Mais avant, j'aurai une faïda, c'est-à-dire une parole profitable pour vous, à vous transmettre. Taïb. Masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. C'est possible de savoir, vous nous dites sa description au prophète Mohammed a.s. De quelle couleur de peau était le prophète barakallahu fik. Inch'Allah ta'ala, lorsqu'on fera s'énoter, Inch'Allah, Sheikh Sadio Konate, s'énoter. Fik barakallah. Inch'Allah, lorsqu'on fera la petite biographie du prophète, on parlera sur ce sujet, Inch'Allah ta'ala. On parlera sur ce sujet, Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de souci. Taïb. Donc avant de commencer, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dans un de ses ouvrages, il a, cet ouvrage se nomme Riyad al-Salihin, dans l'explication du jardin des vertueux, Riyad al-Salihin, Cheikh Al-Uthaymin, il parle de trois formes de comportement. Écoutez bien, c'est très important, avant de commencer ici. Il parle dans un autre ouvrage qui se nomme Riyad al-Salihin, l'explication des jardins du vertueux. Il explique que le comportement il se divise en trois catégories. Le comportement avec Allah, le comportement avec les gens et le comportement envers soi-même. Alors retenez bien cette faïda. Elle est très 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 importante et elle est en rapport avec le comportement avec les autres parce que aujourd'hui, si vous faites un constat, vous constaterez que, subhanallah, c'est comme si on n'avait pas porté attention à ça, mais énormément de gens ne portent pas du tout, n'attachent pas du tout d'importance à cela. Donc, le comportement se divise en trois catégories. Le comportement avec Allah, le comportement avec les autres, et le comportement avec soi-même. Avec soi-même. Cheikh Al-Uthaymin, dans cette parole, cette petite explication, il explique que il explique les trois formes de comportement qu'on vient de citer face à l'injustice. Face à l'injustice. C'est-à-dire, le shir, il met l'accent en disant, faites très attention, parce que concernant ces trois catégories, si tu fais de l'injustice à Allah Ta'ala, il peut te pardonner. Allah Ta'ala, il peut te pardonner. Comme vous le savez, يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ Allah Ta'ala, il châtie qui il veut, il pardonne à qui il veut, il fait ce qu'il veut, Allah Ta'ala. Donc, si tu fais de l'injustice à Allah Ta'ala, il peut te pardonner. Si tu fais de l'injustice à toi-même, Allah Ta'ala, il peut te pardonner. Mais si tu fais, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, mais si tu fais de l'injustice aux autres, Cheikh Al-Uthaymin dit, là il y a une condition pour qu'Allah Ta'ala il te pardonne. Ça sera avec condition. Si tu n'as pas rempli cette condition, c'est pas sûr qu'Allah Ta'ala il te pardonne. Alors moi j'ai pas dit qu'il va pas te pardonner. Mais j'ai dit c'est pas sûr parce que c'est une condition. Cette condition, c'est que tu rétablis l'injustice que tu as fait à l'autre. C'est-à-dire aller le voir, s'excuser, le rembourser ou des choses comme ça. Attention donc, c'est très dangereux de faire l'injustice à autrui, aux autres. Parce que l'injustice que tu vas faire aux autres, elle est pardonnée, wallahu a'lam, à condition que tu rétablis cette injustice. Tu demandes pardon, tu fais taouba, tu te repentis, mais tu dois aller voir la personne. Comme il a été dit dans les textes, réglez vos comptes dans la vie d'ici-bas avant de vous retrouver dans l'au-delà, là où il n'y aura ni dirham, ni dinar, ni dirham. C'est-à-dire, il n'y aura ni argent, ni bien mondain. Il faut régler les comptes ici, tant que tu le peux. Naham. Donc ça, c'est une faïda que je voulais vous apporter. Elle est très, 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 très importante avant d'entrer dans le sujet de parler du comportement avec les autres. Faut rien négliger, hein. Alors, si vous préférez, on commet tous des erreurs. Kulli bani Adam, khatta. Tout enfant d'Adam, comme le dit Allah Ta'ala dans le Coran, commet des erreurs. Et les meilleurs parmi ceux qui commettent des péchés, des erreurs, ce sont ceux qui se repentent. Hein? Ce sont ceux qui se repentent, comme mentionné dans le verset. Hein? Le même verset. Donc si on commet une injustice envers autrui, on doit essayer de la rétablir. C'est mieux parce que ça fait plus mal le jour de la résurrection de devoir à rendre des comptes à quelqu'un. Et tout est noté. Hein? Tout est noté. Tout est noté. Subhanallah. On a des scribes, hein, comme vous le savez. Des anges qui sont des scribes, qui sont mandatés, si on peut dire ça comme ça, par Allah subhanahu wa ta'ala, désignés par Allah wa ta'ala, pour noter tout ce que tu dis de bien et tout ce que tu dis de... En fait, c'est pour noter tout. C'est pour noter tout. Il y a les choses que tu vas dire qui sont bien, qui sont un bien pour toi. Il y a les choses que tu vas dire qui sont un mal. Et il y a la troisième catégorie qui sont notées, c'est les choses qui servent à rien. On dit des choses, mais c'est ni un mal pour toi, ni un bien pour toi. Les choses qui servent à rien. Ça, c'est Cheikh Abdelazak Al-Badr qui l'explique dans un de ses cours. Hein. Que les scribes, ils notent tout. Après, il y a le tri. Ça, ce que tu as dit, c'est bien. Ça, c'est le mal. Et ensuite, les choses inutiles. Inutiles. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Parce que nous, on a tendance à oublier. On a tendance à rentrer dans une certaine routine. On a tendance à se faire duper par le shaitan, mais il faut savoir que tout est noté. Hein. On te sortira ton livre le jour de la résurrection et tes actions seront pesées sur une balance. Alors c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant. C'est maintenant que ça commence. Quoi qui commence, le fait de se réformer. Il faut se réformer. Attention à ce qu'on dit, pas parler sur les autres, pas faire de l'injustice. Parce que ça, c'est quelque chose qui se retourne contre toi. Non. Donc avant de commencer, on a une question qui nous est posée. Une question qui nous est posée. Voilà. Wa alaykoum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que la personne a le droit de refuser nos excuses, etc.? Alors, une personne a le droit de refuser le pardon, l'excuse, etc. Mais normalement, les savants disent que si une personne, au moment où on s'est excusé, au moment où on s'est excusé, Inch'Allah Ta'ala, en général, on est, Alhamdulillah, si la personne, elle pardonne pas, tant pis. Mais envers Allah, Wallahu A'lam, envers Allah, subhanahu wa ta'ala, on s'est repenti, on est parti s'excuser, envers Allah, subhanahu wa ta'ala, normalement, on est lavé. On est lavé du péché. Naham. Wallahu A'lam, faudrait que je revérifie, mais c'est ce que j'ai comme souvenir de ce que disent les ulama. Également, pour la personne qui est sollicitée à excuser, il faut savoir que les savants, on a le droit de ne pas excuser. Hein. On a le droit de dire je te pardonne pas. Et dans certains cas, Dans certains cas, ça peut être grave pour la personne. C'est en fonction de ce qu'on a commis. C'est en fonction de ce qu'on a commis. En général, c'est mentionné dans le Coran, Al-afu aqrabu lit-taqwa. Le pardon est plus proche de la piété. Donc en général, pour celui qui peut, c'est mieux de pardonner. C'est mieux de pardonner. C'est mieux de pardonner. Mais je sais qu'il y a des cas où certaines personnes ne pardonnent pas. Par exemple, j'ai connu un frère. C'est vrai que c'est très très très. Ce qui lui est arrivé, c'est très très très. J'ai connu un frère à l'époque qui nous a posé la question également. Qui nous disait on m'a subtilisé de l'argent, tout ça et tout, ça c'est pas grave. Ça c'est pas grave, je pardonne et tout. Mais il m'a dit on m'a fait une chose, si vous préférez, le frère. Donc c'est une histoire assez étonnante. Hein. C'est une histoire assez étonnante. Il s'est fait tirer dessus. Avec un pistolet ou je ne sais plus. Il s'est fait tirer dessus par un autre frère. Et ce frère, il a des séquelles à vie. Hein. Il a des séquelles à vie. Il a failli d'ailleurs perdre la vie sur le coup plusieurs fois. Donc il m'a dit, ça, je lui ai dit, les savants disent que le mieux, c'est de pardonner, mais après, c'est en fonction de tes capacités. C'est en fonction de tes capacités. Si tu peux pas, il m'a dit, moi, je peux pas, je peux pas. Il y a une autre mas'ala, c'est-à-dire il y a une autre question. Il y a une autre question. Là, il faut vraiment faire attention. Là, par contre, je vous dis, il faut vraiment. Je suis en train de regarder hein, ce que disent les savants. En même temps, je vais regarder là ce que disent les savants sur votre question. Mais par contre, je vous le dis. Hein. Il y a quelque chose auquel il faut faire très, soyez très vigilants. Faites très attention. Parce que j'ai constaté qu'il y a des gens, pour eux, c'est, ils prennent ça à la légère. Si vous avez fait une injustice à une personne et que cette personne a dit, je vais faire une doa sur toi, une invocation sur toi, faites attention, ne prenez pas ça à la légère. Si c'est dans un contexte où... vous lui avez pas fait d'injustice et quelqu'un il vous dit vous avez rien à voir vous hein, et il vous dit je vais faire doa. Là, il y a rien. Allah Ta'ala, il n'accepte pas la doa d'une personne qui est hors contexte. Mais si jamais vous avez fait une injustice à quelqu'un et qu'il fait une injustice et qu'il fait une invocation, sachez que vous risquez gros. Vous risquez gros. Si Allah Ta'ala et Allah Ta'ala et le prophète Hassan dans un hadith, il a bien mentionné quand que ittaqou. Faites attention, du'at al-mazloum, l'invocation de l'opprimé. Fa inna laysa baynahu wa bayn Allah hijab. Il n'y a pas entre l'invocation de l'opprimé et Allah de voile. Ça veut dire qu'elle est acceptée. Il y a des gens qui se sont retrouvés très mal. Ils ont tout perdu par une invocation de l'opprimé. Donc ça, c'est une chose à laquelle vous devez faire très, très, très attention. Même parler sur les autres, faire des fausses mises en garde sur des gens, dévoiler les défauts du musulman, Allah, il va t'humilier devant tout le monde. Si ces gens-là, ils font des invocations, Allah, il va t'humilier devant tout le monde. Donc, je vais regarder, parce que j'ai un peu oublié, mais il me semble que si la personne, elle est sincère, elle demande pardon, normalement, il n'y a pas de suivi, mais on va regarder quand même. Ma hukm. Ma hukm. Rafd. Samh. Al-mazloum. Oh, pardon. Al-zalim. Al-zalim. وقال نعم حكم مسامحة الظالم في الدنيا دون الآخرة. Alors, la question est posée au savant. Une personne m'a fait de l'injustice, insulte, etc. devant les gens. Cela m'a gêné en moi-même. Je lui ai pardonné dans cette vie d'ici-bas, mais je ne lui pardonne pas dans l'au-delà. J'ai invoqué Allah au Ta'ala, qu'Allah me donne mon droit et qu'il soit puni. Etc. On va voir là la réponse. Les savants répondent, il est sans aucun doute que le mieux, c'est de lui pardonner. Par rapport à ce qu'il vous a fait, le mieux, c'est de lui pardonner. Naam. Celui qui pardonne aux autres, Allah lui pardonne. Celui qui efface aux autres, Allah lui pardonne. Naam. Alors, ensuite on nous dit Fa'in aratta adamil afu, si tu ne veux pas pardonner. Fa'in aratta adamil afu, si tu ne veux pas pardonner et tu veux prendre ton droit le jour de la résurrection, c'est ton droit. C'est ton droit. Comme le disent les salafs, les prédécesseurs. Ensuite, le cheikh, il dit quel est le profit qu'une personne soit châtiée par Allah par ta cause? Ça, c'est pour essayer de faire réagir la personne à ce qu'elle pardonne. Quel est le profit qu'une personne soit châtiée le jour de la résurrection par Allah par ta cause? Donc, il est mieux de pardonner à celui qui t'a fait de l'injustice dans cette dunya. Donc voilà, hein, on a déjà une première fatwa qui nous dit que si tu décides de ne pas pardonner, si la personne décide de ne pas pardonner et elle dit je veux mon haq yaoum al-qiyama, c'est un droit. C'est un droit. Je regarde hein, s'il y a d'autres fatwa. Je vous demande juste de patienter un petit peu. Alors, la réponse. On nous dit qu'il n'y a pas de preuve dans la législation islamique qui te force à pardonner si quelqu'un a fait une erreur ou t'as pris ton droit ou t'as fait de l'injustice. Il n'y a pas de preuve comme quoi c'est obligé, tu dois lui pardonner. Celui qui nuit aux gens par ses paroles, par ses actes, il aura fait un grand péché. Il doit prendre garde à la colère d'Allah et son châtiment dans la dunya et dans l'akhira. Donc ça, c'est tous les ulama, hein. On nous dit, tu dois patienter, on te conseille de patienter sur ceux qui t'ont fait de l'injustice, tu seras récompensé, Inch'Allah Ta'ala. Je suis en train de lire la suite, hein, vous m'excusez. Donc le mieux, ils disent tout ça les ulama, hein, si tu veux qu'à toi aussi on te pardonne, pardonne aux autres. Si tu veux qu'à toi aussi Allah il te pardonne, pardonne aux autres. Mais en général, si quelqu'un il te pardonne pas, oui, les comptes ils peuvent être réglés le jour de la résurrection. Je regardais s'il y avait une fatwa d'un grand savant ou une vidéo. Voilà. Voilà pour la réponse. En gros, oui. Je sais de ce que je me souviens qu'il y a des cas où c'est pas compté. Et il y a des cas où oui, tu as le droit de demander ton. Il a le droit de demander à la personne son droit le jour de la résurrection, de dire moi je pardonne pas, voilà. Non. Parce que la religion, elle est faite de pardon, mais elle est faite, comme vous le savez, aussi de sentence. Pour ceux qui font des injustices, des. Mais à la kulli hal, il faut insister pour que la personne elle te pardonne parce que le jour de la résurrection, ça fait mal. C'est pas comme dans la dunya. Wallahu a'lam. Donc, Inch'Allah ta'ala. Alors, salam alaykoum ustaz, c'est quoi la définition de l'injustice pour bien comprendre la chose? La définition de l'injustice. La définition de l'injustice, on nous dit, c'est. Tout ce qui est fait, donc c'est une définition comme ça, hein. Elle est un peu technique, donc je ne sais pas si elle va bien éclaircir la chose, il faudrait chercher d'autres définitions, il faudrait faire une recherche sur les différentes définitions, mais moi celle que je connais c'est de mettre quelque chose hors de son contexte. L'injustice, il y a des savants qui disent c'est le fait de mettre quelque chose hors de son contexte. Donc ça c'est une définition académique assez technique. Naham. Il y a d'autres définitions. Il y a d'autres définitions. Donc la plus connue, c'est celle que je vous ai dit, hein. Wad'a shay fi ghayr mawdi'ihi. C'est le fait de mettre les choses hors de mettre une chose hors de son contexte. C'est le fait également d'outrepasser son droit. Voilà, c'est la définition qui est la plus répandue, la plus connue chez les savants, c'est de mettre quelque chose hors de son contexte. Naram. Tayyib. Donc maintenant. On va commencer notre cours avec la lecture avec Cheikh Al-Uthaymin. Wa iyyak, Cheikh Abu Yusuf, wa iyyak. Wa antum, fajazakumullahu khayran. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, quant au bon comportement avec les gens, certains le résument dans la phrase suivante, attribuée notamment à Al-Hassan Al-Basri. Alors regardez, ça fait partie de la clairvoyance. Et d'un énorme bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux salafs. Alors le terme salaf, il veut dire ceux qui nous ont précédés. Le terme salaf, il englobe n'importe quelle époque, du moment qu'ils nous ont précédés. Retenez bien ça. Mais quand on dit salaf ou salih, les pieux prédécesseurs, là on parle des compagnons. Mais quand on dit juste salaf, ça peut être même l'imam Malik, l'imam Ahmed, un tabi'i comme. Et même parmi les tabi'in comme Al-Hassan Al-Basri. Taïb, il y a une différence entre pieux prédécesseur et prédécesseur. Prédécesseur, c'est un terme général pour désigner tous ceux qui nous ont précédés. Les pieux prédécesseurs, c'est un terme qui désigne les compagnons. Taïb? Alors, ça fait partie justement de cette grande ni'ma, cette grande grâce qu'Allah Ta'ala a donnée aux prédécesseurs. Alors que ce soit les compagnons du prophète, ou tous ceux qui sont venus après, parmi les grands imams, c'est qu'ils sont capables de vous décrire, de vous éclaircir quelque chose en une phrase. Et là, Cheikh Al-Uthaymin, il nous dit que Al-Hassan Al-Basri, en une phrase, il a décrit, résumé, le bon comportement avec les gens. Alors. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, quant au beau comportement avec les gens, certains le résument dans la phrase suivante, attribuée notamment à Al-Hassan Al-Basri. C'est s'abstenir de faire le mal, du mal, être généreux et avoir un visage souriant. Alors, vous voulez la définition du comportement? Et là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, moi, ce que je peux vous dire comme faïda, Pour ceux qui sont nouveaux, le terme faïda, ça veut dire une parole profitable ou l'explication, une explication en plus qui va être profitable. On est rempli de ça à l'institut. Hein. Faut s'habituer au terme faïda au singulier et fawaïd au pluriel. Ça veut dire quelque chose de très profitable, qui n'est pas forcément dans le livre ou dans le cours que nous on est parti chercher chez les autres grands savants. Naham. Alors, une faïda ici très importante. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de l'enseignement, vous allez rentrer dans le vif du sujet des sciences religieuses, hein, vous le savez. Au cœur des sciences religieuses à l'Institut, vous allez entrer. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que, bah malheureusement, je vous le dis de source sûre, hein, je vous le dis, énormément, énormément, la plupart des choses que vous allez voir dans les livres, avec Cheikh Al-Uthaymeen ou autres, ou toutes les fawaïdes qu'on va vous apporter des savants, vous allez voir que malheureusement, ça reste souvent théorique, ça reste dans les livres. Ça ne dépasse pas les livres. Alors, ça ne doit pas être pour vous une barrière. Au contraire, il faut se dire, bah, si les autres n'y pratiquent pas, moi je vais pratiquer. Il faut des gens qui pratiquent, subhanallah. On a nos grands savants et ceux qui les suivent, qui suivent nos savants avec ferveur. Mais vous constaterez, regardez par exemple ici. Retenez-la, apprenez-la par cœur, c'est la définition du comportement. Une définition du comportement, c'est s'abstenir de faire le mal, être généreux et avoir un visage souriant. Alors tout ça, on va l'expliquer maintenant. Parce que ça a un détail. Et ça a un détail très 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 important. Mais vous allez voir que, subhanallah, avec un grand désolement, c'est rare, ça devient de plus en plus rare. Voilà. Pour une des raisons, alors une faïda ici, c'est que pourquoi ça devient de plus en plus rare, ce bon comportement, hein? Une des raisons, écoutez bien, c'est pas la raison, mais c'est une des raisons, on évolue dans des sociétés, on évolue dans des sociétés où tout est fait pour que t'as pas le temps de t'occuper de l'autre. Tu deviens individuel et tu penses qu'à toi-même et t'as pas le temps de t'occuper à sourire à l'autre ou à... Prenez le métro, je sais pas si c'est toujours le cas, j'ai quitté la France ça fait un moment, mais je me souviens dans les époques, et je pense pas que ça ait changé, prends le métro à 7 h du matin et regarde les gens, chacun il vient de se réveiller, c'est un robot qui va au travail, il est où dans son journal ou dans son Walkman, dans son casque audio Il n'y a personne qui s'occupe de l'autre, à sourire à l'autre ou essayer de faire du bien à l'autre. C'est la société robotisée. Et puis il y a des gens, quand ils se disent, tiens, je vais quitter un petit peu là, je vais prendre 1 semaine, 2 semaines de vacances, je vais quitter ce monde-là robotisé, ce monde dans lequel on te place dans une léthargie, eh ben tu pars, tu vas voir un petit peu la nature, tu t'évades un petit peu du béton, du fer, on est tout le temps entre quatre murs, on vit entre quatre murs, dans du béton, du fer. Tu vas dans le désert, tu vas à la campagne, tu vas au bord de la plage, et là tu commences à voir ce qu'il y a autour de toi. Il y en a qui se sont convertis comme ça. Tu commences à penser à l'autre, tu commences à réfléchir. Parce que là, ça y est, on t'a enlevé le casque de la vie de tous les jours, la mondialisation, etc. C'est comme tu as un casque et on t'empêche de réfléchir, on t'empêche de voir en face de toi, à gauche ou à droite. Wallahul musta'an. Donc, vous me direz, oui, mais ça, c'est les kuffars. Tout à fait. On vous répondra, tout à fait. Ça, c'est les kuffars. Mais malheureusement, comme vous le savez aujourd'hui, les musulmans, ils suivent les kofars pour la plupart. Ils suivent les kofars. Donc c'est pour ça qu'on a les kofars ont une énorme influence sur le monde musulman. C'est pour ça qu'aujourd'hui, énormément, une des raisons hein, pour lesquelles énormément de musulmans aujourd'hui s'occupent pas de l'autre. Je gagne quoi à sourire à l'autre, moi? J'ai pas le temps. C'est comme ça que les gens pensent. À chercher à faire le bien, à chercher à... Vous allez voir le détail. Et vous allez constater que c'est ça se fait rare. Hein. Ça se fait rare. Si une personne, elle n'a pas un profit avec vous, elle va pas chercher. Je vous le dis parce que moi, je vis dans une ville complètement musulmane. Et quand je vais vers les autres pour leur sourire ou quoi, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Il cherche quelque chose, c'est pas possible. Il vient, il te sourit comme ça, il est gentil avec toi. Ils sont méfiants, les gens, tellement c'est rare. Lui, c'est bizarre, il veut quelque chose. Wallah musta'an. Tellement la majorité des gens, c'est pas sourire, pas forcément être gentil. S'ils n'ont pas de faïda, de profit avec toi, d'intérêt, ils vont pas te calculer. Voilà. Pour vous dire que, voilà, Wallah musta'an. Vous savez qu'il y a des gens, des musulmans, ils sont tout seuls. C'est une honte pour nous, hein. Il y a des musulmans, ils sont tout seuls. Ou bien ils sont malades, ils sont tout seuls. Ou bien ils connaissent personne. Dernièrement, il y avait un frère qui m'a contacté dans une ville où c'est rempli de musulmans. Rempli. Rempli de musulmans. Une grande communauté. Et il me dit, il m'a contacté. Oui, je voudrais faire connaissance avec vous. Est-ce qu'on peut se rapprocher parce que je suis tout seul, je connais personne. Et il m'a cité la ville où il est. Je me suis dit, mais c'est connu, il y a énormément de musulmans de France, de musulmans de... C'est connu là-bas. Le frère, il est tout seul. Combien de sœurs, elles sont toutes seules? On ne cherche pas après nos frères, nos sœurs. Chacun, il cherche après lui-même. Ça, c'est pas l'islam, hein. Vous savez que ça, c'est pas l'islam, hein. Naram. Alors, il faut essayer de se... Il faut vraiment essayer de faire des efforts pour rectifier tout ça. Et la démarche de venir à l'institut, c'est une bonne démarche parce qu'on va travailler sur ça beaucoup. On va travailler sur ça. À ne pas être individuel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi vous pensez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré toutes les... Il n'y a pas qu'un seul hadith, hein, a dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsi, tu ne seras pas croyant, ne sera pas croyant l'un d'entre vous tant qu'il ne voudra pas pour son frère comme il veut pour lui. Cheikh Abdelazak al-Badal, il a dit ne sera pas croyant, c'est la foi obligatoire qui est visée dans ce hadith. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux pas pour toi comme tu veux, si tu veux pas pour ton frère comme tu veux pour toi, tu as un péché. Wallahu al-musta'an, tu as un péché. Quand tu vois ton frère, quand tu vois ta sœur, tu dois vouloir pour elle, pour lui, comme tu veux pour toi, si ce n'est plus. Si ce n'est plus. Mais nous, aujourd'hui, ça fonctionne comment? Je vous le dis, hein, c'est une règle qui est connue. Aujourd'hui, ça fonctionne. On ne veut pas que quelqu'un il soit comme nous ou mieux que nous. On ne veut pas. On ne le souhaite pas. On veut que les gens ils soient en dessous de nous. Et c'est pour ça que la communauté, elle est arrivée au niveau où elle est arrivée. Naham. Ne croyez pas qu'on va réussir avec des gens méchants, des gens personnels. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, à la fin des temps, dans ma communauté se propagera quoi? El-bukhl. El-bukhl. El-bukhl, c'est l'avarice, la radineté. Wallah al-musta'an. Également, le polythéisme se propagera. La communauté de Mohammed retournera, pas tout le monde, hein, mais retournera à l'adoration des idoles. Wallahu al-musta'an. Des idoles. Il faut donc apprendre, étudier et pratiquer si on ne veut pas se retrouver dans ces catégories-là. Je vous assure qu'il y a des gens... Il y a des gens... Je vous assure qu'il y a des gens... Je vais vous apporter des preuves. Qu'il y a des gens, ils sont tombés dedans sans s'en rendre compte. On ne s'en rend pas compte, hein, le shétan nous fait tomber dans des choses sans s'en rendre compte. Alors, je vais vous citer un petit récit, je ne sais pas s'il est authentique. Mais même si ce récit, on n'est pas sûr qu'il soit authentique, on peut. Le sens, il est vrai. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça dans notre communauté, et voilà. Alors j'espère que, parce que ça a été posté dans les réseaux sociaux, j'espère que que cette personne elle n'est pas là aujourd'hui, on n'est pas là pour la dénigrer. D'ailleurs, on ne dit pas de nom. Ça veut dire qu'on a le droit de parler d'un. Tant qu'on ne dit pas de nom, c'est pas du riba. Tant qu'on ne prononce pas les noms d'une personne, des personnes, c'est pas considéré comme du riba. Alors ça s'est produit dans les réseaux sociaux. Comme je vous le dis, ça a été posté dans les réseaux sociaux. Alors après, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Mais nous, avec tout ce qu'on connaît, ce qui se produit dans la communauté et tout, c'est pas étonnant, il y a des cas comme ça. C'est le cas d'un couple qui est marié depuis peu. Là, on vous cite ce récit pour vous dire qu'il y a des gens dans la communauté qui sont atteints de comme un peu radin, un peu personnel, un peu. Et chez le musulman, ça ne doit pas exister. Il y a énormément de musulmans qui sont radins. Et ça n'existe pas, radin dans l'islam. Radin dans les hasanettes, oui. Jaloux dans les hasanettes. C'est-à-dire que tu fonces dans les hasanettes, partout où il y a des hasanettes, t'es. Oui. Mais radin à faire le bien ou radin dans le sens personnel, c'est pas. Mouhim, l'exemple, vous nous excusez. L'exemple, en fin de compte, on va pas le citer parce que, voilà. C'est pas. Mais. Pour vous dire qu'il y a des gens, ils se sont séparés pour un tacos. Ils ont divorcé pour un tacos. Alors, c'est pas pour le tacos en lui-même, mais ça démarre d'une histoire de tacos. Un couple qui sont partis par exemple, dans une sandwicherie. Et un des deux, qui n'a pas terminé son sandwich, son conjoint qui lui a dit est-ce que je peux terminer ton sandwich? La personne lui a dit non, non, je partage pas, mais je t'en paierai un autre après, il n'y a pas de souci. Non, non, c'est mon sandwich, je partage pas. Et il en est parti de là une grande histoire. Une grande histoire. Donc ça, c'est pour vous dire, regardez, des fois, on a des caractéristiques qu'on a acquises sans faire attention. Sans faire attention, la personne, elle sait pas que voilà, faut partager ou des choses comme ça. Et voilà. Alors. Alors. On a une autre question. J'ai une question anonyme. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment travailler la mise en pratique de ce que l'on apprend dans le comportement? Et ensuite, comment trouver le juste milieu entre trop donner aux autres ou être égoïste. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Concernant la mise en pratique, je vais vous dire comment ça fonctionne. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est en fait, si vous voulez. C'est une bonne question. En fait, je vous le dis, ça passe pas par plusieurs chemins. Tu veux être bon dans l'islam, tu veux être bon, un bon musulman. Dès que tu apprends quelque chose, mets-le en pratique. C'est comme ça. C'était ce que faisaient les compagnons. Dès qu'il y avait un ordre, dès qu'il y avait quelque chose. Ils le mettent en pratique. Ça veut dire quoi mettre en pratique? Par exemple, aujourd'hui, on vient de parler dans la définition, c'est-à-dire on va voir trois points fondamentaux comme des piliers dans le comportement. Parmi ces points fondamentaux, il y a le fait de sourire. Ça y est, tu viens d'apprendre qu'il faut sourire. À partir d'aujourd'hui, tu souris. C'est ça mettre en pratique. Au moment où tu l'as appris la chose, tu mets en pratique. À partir d'aujourd'hui, tu souris. Et si vous faites ça, c'est ça, pratiquer ce qu'on apprend. Chaque chose que tu vas apprendre, à la seconde même où tu l'as appris, tu dis ça y est, moi je le mets en pratique ça. Et c'est comme ça que tu vas devenir un bon, Inch'Allah ta'ala. Bi'idhnillah ta'ala, c'est comme ça que tu vas devenir un bon, que tu vas progresser, ta foi va monter, c'est comme ça. Ça, c'est la première question dans la question. Salam alaikum. La première réponse dans la question. Salam alaikum. Est-ce que comment travailler la mise en pratique de ce que l'on apprend dans le comportement? Donc on a répondu. Et ensuite, comment trouver le juste milieu entre trop donner aux autres et être égoïste? Alors, l'égoïsme, il a plusieurs degrés. L'égoïsme, c'est le fait de pas donner du tout. De pas donner du tout. Ouais, moi je. Non, non, moi je donne pas, j'aide pas. On sait pas ce qu'ils vont faire avec, tout ça. Non. Ça, c'est l'égoïsme. Tu donnes pas, t'es personnel, tu penses qu'à toi. C'est ça l'égoïsme. Tu donnes pas du tout. Ou tu donnes un tout petit peu alors que tu pourrais faire mieux. Ensuite, trop donner aux autres. Alors là, retenez bien la nuance, retenez bien. En vérité, je vais vous donner, Inch'Allah, au Ta'ala, on va essayer de vous donner le juste milieu. En vérité, essayez de vous mettre entre le fait, essayez d'assimiler ce juste milieu entre le fait que, en vérité, tu donneras jamais assez. Donne toujours le maximum. Comme ont fait les compagnons, il y avait un compagnon, Abou Bakr, il avait tout donné ce qu'il avait, et il y avait un autre compagnon, il a donné la moitié de ce qu'il avait, c'était Omar. Ça signifie que tu donneras jamais assez en vérité. Donc donne tout ce que tu peux au maximum, mais attention. Là où tu vas trouver ton juste milieu, c'est que ne donne pas au point où toi tu vas te retrouver dans la difficulté. C'est là la limite. Donne tout ce que tu peux donner. Donne tout ce que tu peux donner. Mais attention, il y a un hadith qui dit Ibda bi nafsik. Commence par toi-même. Ça veut dire quoi? Donne tout ce que tu as, mais, ne sois, mais garde pour toi de façon à ce que tu ne te retrouves pas, toi, SDF. Vous comprenez? Vous avez Cheikh Mokbel, rahimahullah, notre Cheikh Mokbel, rahimahullah, il donnait tout aux autres. Il y avait des gens du monde entier qui venaient et lui donnaient des clés de 4x4 tout neufs. Le président, il lui a proposé des choses incroyables. Les gens, ils lui disaient, on va te donner ça, ça, ça. Il donnait tout pour la darwa. Les voitures, il disait, donnez à mes élèves, moi, j'en veux pas. Et il vivait comme quelqu'un qui, voilà, qui a juste pour vivre. Croyez pas, Cheikh Mourbel, il avait des gros 4x4 tout neufs. Il avait la grosse maison. Il aurait pu, hein. Il aurait même pu être le ministre des Affaires religieuses du Yémen. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Cheikh Al-Othamine, c'était la même. Cheikh Ibn Baz, à la fin du mois, il paraît que Cheikh Ibn Baz, il était toujours en le compte à zéro. Il donnait tout aux autres. Il y a même des gens qui ont essayé de l'arnaquer. Quand il a été prévenu, il a dit donnez-leur, c'est pas grave. Donnez-leur. Ça veut dire qu'ils en ont besoin s'ils ont voulu. Rajouter des zéros dans le chèque que j'avais fait, ça veut dire qu'en réalité, ils en ont besoin. Vous voyez comment sont les ulama, comment étaient les salafs, ils donnaient tout. Aïcha, radiallahu anhu, ou radiallahu anha, un jour, il y a une personne, je crois elle avait un bébé avec elle, ou je ne sais plus, une très pauvre, elle a frappé chez Aïcha. Elle lui a dit, j'ai rien, tout ça et tout. Aïcha lui a donné, je crois qu'elle avait une date, ou des dates, elle lui a donné tout ce qu'elle avait. Elle lui a donné la. Une ou deux dates, il lui restait rien après. Elle lui a donné tout ce qu'elle avait. Le hadith aussi, qui est mentionné dans le Sahih al-Bukhari, où des gens, ils ont réussi à faire rire Allah Ta'ala. Alors attention, les gens de la Sunna, quand on dit rire Allah Ta'ala, ou s'énerver Allah Ta'ala, se mettre en colère, nous, les gens de la Sunna, on ne dit pas comment. On affirme que Allah Ta'ala, il rit, il se met en colère, il est satisfait, mais on ne sait pas comment. Donc il y a des gens, ils ont réussi à faire rire Allah Ta'ala. Vous savez comment? Un jour, il y a des pauvres qui ont frappé chez eux, ils les ont reçus, ils leur ont donné tout ce qu'ils avaient, ils n'avaient plus rien. Et ils se sont mis derrière un rideau et ils ont fait semblant de faire du bruit avec des cuillères, des fourchettes, des couteaux, genre on est en train de manger, mais il n'y avait rien du tout en vérité. Ils ont tout donné. Donc, on ne peut pas dire, wafikum barakallah, on ne peut pas dire que... Tu donneras trop, tu donneras trop, on n'en donnera jamais assez. Il y a des gens, ils donnent des maisons, il y a des gens, ils donnent des... Allahu Akbar. T'en donneras jamais assez. Mais essaye de faire en sorte de donner tout ce que tu peux, mais que toi, tu ne te retrouves pas en... excusez-moi du terme, en galère. Il y a un hadith qui dit Ibda binafsi, commence par toi-même. Ça veut dire, toi, ne te retrouve pas à la rue, tu donnes ton appartement à des gens, tu donnes tout ton frigo, et toi, après, t'es SDF, c'est toi, après, qui va tendre la main. Non. Mais par contre, donne le maximum que tu peux donner. Donne le maximum. Non, faut donner le maximum. Il faut pas se dire, je donne trop, je suis trop gentil. Ça, subhanallah, celui qui est comme ça, il faut qu'il reste comme ça parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. Celui qui donne tout ce qu'il a. Il y a plus beaucoup de gens aujourd'hui comme ça. Et le radin, c'est celui qui pense que à lui. Il pense que à lui, il donne rien aux autres. Quand il donne, c'est parce qu'il est forcé, on l'a mis au pied du mur, tiens, vas-y, je te donne 10 euros, je te donne 1 euro. Voilà. Je crois qu'on a une autre question. Assalamu alaikum warahmatullahi, oustaz. Est-ce qui est le plus intéressant vis-à-vis d'Allah entre donner le maximum et épargner pour des projets? Alors, c'est une bonne question. Assalamu alaikum warahmatullahi, wa alaikum salam. Cheikh Alex. Cheikh Alex. Qu'est-ce qui est le plus intéressant vis-à-vis d'Allah entre donner le maximum et épargner pour des projets comme le Hajj ou la Hijra? Alors, la religion, dans la religion, il y a des règles. Parmi ces règles, c'est que il y a des choses qui sont jugées dans la religion de prioritaires, dans le sens où si tu as les moyens de les faire et tu les fais pas, tu vas avoir un péché. C'est ce qu'on appelle les choses obligatoires. Si tu as les moyens physiques et financiers, par exemple, de faire le pèlerinage ou de faire la hijra, ça devient obligatoire pour toi. Si tu ne les fais pas, tu auras un péché. Donc, cet argent que tu as mis de côté, non, il ne faut pas la donner pour. Il ne faut pas la distribuer. Sauf, Wallahu a'lam, si c'est un cas de force majeure et que toi, ça te fait reculer un petit peu, mais ça ne va pas te faire stagner en France, genre tu vas rester. Eh bien, par exemple, je ne sais pas, tu as ton frère ou ta sœur. C'est un exemple, hein, il y a une janaza, quelqu'un il est mort, personne ne veut payer, ils vont le mettre dans une fosse commune, après ils vont le brûler ou quoi. Là, c'est ce qu'on appelle une darora, un cas de force majeure. Un petit bébé musulman ou une sœur, musulman ou pas, hein, ou autre, hein, il va subir une intervention chirurgicale, il risque la mort, personne ne peut donner, on n'a trouvé personne, tu mets ton projet en stand-by, parce que là c'est une darora. Mais sinon, en règle générale, de dire tiens, je vais donner par là, tiens, je vais donner, j'ai envie de donner, après t'as plus rien. Et toi, ton wajib, tu le fais pas? Non, faut pas faire ça. Là, on va pas dire que tu es un radin. Là, on dira pas que tu es un radin. Mais si tu en as plus qu'il ne t'en faut, il faut donner. Pourquoi? Parce que Allah, il va te le rendre. Les gens, ils savent pas ça. Ce que tu donnes, fisabilillah, Allah, il va te le rendre. C'est pas perdu. Les gens, des fois, ils croient que c'est perdu. Mais si, par exemple, tu vas donner pour une mosquée, subhanallah, c'est le paradis, inshallah. C'est une sadaqa qui reste jalia, elle reste jusqu'à, ou une science, tu vas participer à la propagation d'une science, ou tu vas, tout ce qui est ce qu'on appelle sadaqa qui reste après la mort. Et attention, les sadaqas, faut pas s'en priver, hein, parce que ça peut te guérir d'une maladie, une sadaqa, ça peut également atténuer le feu du châtiment de la tombe, une sadaqa, ça peut t'emmener au paradis, les aumônes, faut pas passer à côté, hein. Faut pas passer à côté. Quand tu peux le faire, que toi, ça va pas te mettre en difficulté, fais-le. Et concernant tes projets, pour celui qui a des projets, si tu as de l'argent en plus, donne. Mais si tu peux pas vraiment, c'est ça, parce que le fait, par exemple, de pas faire la hijra, ça va jouer sur ta religion, t'en peux plus. Non, là, c'est une obligation pour toi de garder cet argent et de partir avec. Wallahu a'lam. Donc, Inch'Allah ta'ala, notre cours touche à sa fin. Barakallahu fikum, hein, wa hayakum Allah wa jazakum Allah khayran. À la kulli hal, si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser dans vos groupes respectifs. Inch'Allah, comme vous avez vu, hein, quand on peut répondre à une question, on y répond directement. Et quand on est pris par le temps ou autre, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le site, et plutôt dans vos groupes. Et Inch'Allah Ta'ala, dès qu'on en a la possibilité, on répond, Inch'Allah Ta'ala, à vos questions, si on en a la capacité. Si on n'en a pas la capacité, s'il faut poser la question au savant, on la posera, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fiikum. En tout cas, n'oubliez pas, tout ce que vous apprenez à l'institut, selon vos capacités, hein, parce que comme le dit Allah Ta'ala, on craint Allah comme on le peut. Craignez Allah comme vous le pouvez. Donc on ne fait pas ce qu'on ne peut pas. Mais tout ce que vous apprenez à l'institut, si vous voulez devenir vraiment progresser dans votre religion, la foi, la pratique, dès que vous apprenez à quelque chose, mettez-le en pratique. Et là, alors vous allez, Allah Ibarak, là, je peux vous dire, vous allez être bien. Inch'Allah Ta'ala, avec sincérité et tout, vous allez être bien. D'ailleurs, c'est le but de l'institut. T'apprends, tu pratiques, t'apprends, tu pratiques. Les gens de la Sunna disent, la foi, elle monte, elle augmente avec la pratique et elle diminue avec les péchés. Ça veut dire quoi? Tu pratiques pas, tu fais des péchés, ta foi, elle va descendre. Mais c'est quoi? Si tu commences à mettre en pratique la religion, c'est là que ta foi, elle va augmenter, c'est là que tu vas évoluer. Faites attention, les savants disent que dans la religion, au niveau de la foi, il n'y a pas de niveau intermédiaire. C'est où tu es en train de monter ta foi ou tu es en train de la faire descendre. Il n'y a pas de niveau où, non, non, je suis au niveau 5, pour l'instant, je stagne. Non. C'est où ta foi elle est en train de monter ou elle est en train de descendre. Donc, tant qu'à faire, il faut faire monter la foi et ça passe par les œuvres, la pratique, etc. Wa subhanakallahumma wa ma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa iyyak Sheikh Alex wa iyyak wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah. Donc en principe, c'est dimanche qu'on se retrouve, hein. Dimanche, Inch'Allah.